Bonjour.
Bonjour Tofik, bonjour à tous. Emmanuel Macron ordonne la fermeture à partir de lundi et jusqu'à nouvel ordre des crèches, établissements scolaires et universités pour freiner la propagation du coronavirus en France. Il a tué 61 personnes, en a contaminé près de 3000. Nous reviendrons sur cette allocution faite hier soir, les mesures prises dans les écoles et les élections municipales. Elles sont maintenues. Nous irons ensuite à New York où le Dow Jones a vécu sa plus forte baisse depuis le lundi noir de 1987 en bourse. Et puis zoom sur un rapport de Reporters sans frontières. Il dénonce aujourd'hui la censure des médias via Internet, une censure commanditée bien souvent par des gouvernements. L'allocution aura duré une demi-heure hier soir, 30 minutes pendant lesquelles Emmanuel Macron s'est montré déterminé à freiner l'épidémie de coronavirus. Il a ainsi égrené un certain nombre d'actions, de mesures, mais le stade 3 n'est pas encore déclenché en France, pas pour le moment en tout cas, car il y a le premier tour des élections municipales ce dimanche, Rosalie Lafarge.
Si rien ne s'oppose à la tenue des municipales dimanche, la semaine prochaine, les choses vont prendre une autre tournure.
Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés.
Un service de garde sera mis en place région par région, notamment pour que les soignants puissent continuer à aller travailler, enchaîne Emmanuel Macron. Pour les autres, le chef de l'État encourage le télétravail, mais maintient tout de même les transports publics.
Mais là aussi, c'est à votre responsabilité que j'en appelle. Et j'invite tous les Français à limiter leurs déplacements au strict nécessaire.
Pour le président, cette crise appelle plusieurs réponses. Une réponse sociale qui se traduit par le report de 2 mois de la trêve hivernale. Une réponse économique aussi, surtout.
Un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en œuvre. L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Toutes les entreprises pourront reporter sans justification, sans formalité, sans pénalité, le paiement des cotisations et impôts dus en mars.
Emmanuel Macron insiste sur la nécessité d'agir à l'échelon national, mais aussi européen et international, sans tomber dans le repli nationaliste ou individualiste. Mais le président pense aussi déjà à l'après, et pour lui, des leçons devront être tirées.
Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie.
Emmanuel Macron l'affirme, il va falloir prendre de vraies décisions de rupture après la crise et sans les détailler, il s'engage fermement à les assumer.
Alors nous l'avons entendu avec Rosalie, une mesure pourrait notamment accentuer cette crise économique. Emmanuel Macron a décidé de fermer tous les établissements scolaires qui accueillent donc des enfants et des jeunes, ça va des crèches aux universités. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a précisé hier soir les modalités de ces fermetures. 12 millions d'élèves et 1 600 000 étudiants sont concernés et ils travailleront tout de même, Sonia Princey.
Pas question de se croire en vacances. Les enfants vont devoir travailler, a bien précisé le ministre de l'Éducation nationale. Les professeurs vont continuer à enseigner à distance. Ils peuvent utiliser l'intranet de leur établissement et mettre à disposition de leurs élèves des cours, des exercices et échanger des messages avec eux. Cela existe surtout dans les collèges, les lycées et les universités. Ils peuvent aussi accéder à une plateforme élaborée par le CNED, intitulée « Ma classe à la maison » et qui propose 4 semaines de cours tout près de la grande section de maternelle à la terminale pour les filières générales et technologiques, pour l'équivalent de 4 heures de travail par jour. Les départements où les écoles sont déjà fermées l'utilisent. 15 millions de connexions simultanées sont possibles. Et pour les 5% d'élèves qui ne disposent pas d'un équipement informatique à la maison, le ministre a promis des solutions en lien avec les collectivités locales. Il a aussi indiqué que les établissements seraient sans doute fermés jusqu'aux vacances de printemps qui démarrent début avril, dans 3 semaines pour la première zone. Les examens et les concours seront a priori maintenus, mais des décisions seront prises au cas par cas.
Alors en revanche, il n'est pas prévu d'annuler les élections municipales avec le premier tour ce dimanche. La campagne tout de même est bouleversée, mais les Français sont bien appelés à aller voter. Au sein des instances du parti présidentiel La République En Marche, on veut rester serein et confiant malgré les turbulences du moment. C'est en tout cas ce qu'assure Marie Guévenoux, la coprésidente de la commission nationale d'investiture du mouvement.
Comment on a abordé, nous, ces élections municipales? Un, on a toujours su qu'on n'aurait pas, dans le cadre de ces élections municipales, une retranscription des scores des élections nationales. C'est un scrutin très particulier, qui est très local, et au fond sur lequel il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de vote national. Les Français qui votent pour leur maire, souvent, ils ne connaissent même pas l'étiquette de leur maire. Donc on sait qu'on est dans ce cadre-là. Donc on l'aborde à la fois avec humilité, Et en même temps, on a des objectifs ambitieux, puisque nous, on s'est fixé comme objectif d'avoir 10 000 conseillers municipaux. Encore une fois, c'est un objectif ambitieux, faut pas considérer que c'est petit comme score. Donc 10 000, oui, c'est un objectif qui est ambitieux, mais atteignable, et on verra ça au lendemain du second tour. Je sais pas quelle sera la participation dimanche. Généralement, aux dernières municipales, il me semble que le taux de participation était de 63% à peu près. Si on se situe entre 60 et 63%, on se dira qu'au fond, il n'y a pas eu d'effet du coronavirus. Si on est en deçà, on le mesurera à ce moment-là. Quant à vous dire si je le redoute, je trouve juste que le grand nombre de nos compatriotes peuvent exercer leur devoir civique, je m'en félicite parce que c'est une liberté auquel tout le monde doit pouvoir accéder.
C'était Marie Guévenoux, interrogée par Rosalie Lafarge, premier tour de l'élection, je vous le rappelle, ce dimanche. Ailleurs dans le monde, le bilan passe la barre des 5000 morts au total, 61 morts déjà en France, 1 millier en Italie. Et puis on a appris cette nuit que l'épouse du Premier ministre canadien Justin Trudeau a été testée positive au coronavirus. Justin Trudeau sera par précaution placé à l'isolement pour une période de 14 jours. Un virus qui inquiète et qui fait chuter les bourses. Moins 12,28% hier à Paris, une première dans l'histoire du CAC 40. Déroute également à Milan, à Londres et à New York où, face à la propagation de la pandémie de coronavirus et à l'absence de perspectives claires, les investisseurs ne croient pas visiblement aux mesures de relance annoncées en ordre dispersé ces derniers jours. Cela va coûter cher. La bourse de New York a vécu hier sa pire séance depuis près de 30 ans, Loïc Loury.
À Wall Street, les indices boursiers une nouvelle fois ont défilé en rouge. Comme lundi dernier, la séance a été interrompue, mesure rarissime juste après l'ouverture. La faute à la dégringolade des cours. À la clôture, le Dow Jones perd 10% du jamais vu depuis le lundi noir de 1987. Grégory Volokhin est président du groupe Mescart, gestionnaire de fonds d'investissement. Cette panique, dit-il, est le résultat d'une crise totale de confiance.
Les marchés financiers n'arrivent pas à maîtriser à la fois les perspectives de ce qui pourrait se passer à cause de l'épidémie, mais même au jour le jour, ces marchés ne savent pas vraiment à quoi se fier. On est en train de vivre une page d'histoire que, franchement, on aurait préféré ne pas vivre.
En éloignant la loupe, l'indice vedette de la bourse new-yorkaise a perdu un quart de sa valeur depuis janvier. Wall Street voit les pays se claquemurer les uns après les autres et cela affecte l'économie mondiale. Mais pour Georges Hugeux, ancien vice-président de la bourse new-yorkaise, ce plongeon n'est pas lié qu'au virus.
Ce dernier n'a été que l'aiguille qui a fait exploser la bulle. La réalité, c'est que nous vivons dans une situation de bulle financière qui ne tient pas compte ni de l'endettement ni des autres risques économiques.
Tous les deux, en tout cas, s'accordent sur une chose, la gestion de crise de Donald Trump, catastrophique, n'a rien arrangé.
Et vous pouvez retrouver ce matin sur franceculture.fr les 10 questions que vous vous posez sur le coronavirus et leurs réponses évidemment. L'actualité ce matin, elle est aussi en Irak où les États-Unis ont mené dans la nuit des frappes de représailles contre des positions d'un groupe pro-iranien. 24 heures plus tôt, deux Américains et un Britannique étaient morts dans une attaque à la roquette près de Bagdad en Irak justement. À l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre la cybercensure, Reporters sans frontières sort son rapport annuel sur la censure de la liberté d'expression sur Internet. Nous y penchons ce matin. RSF pointe la censure commanditée par des gouvernements. L'ONG établit même une liste de 20 prédateurs numériques, Nadine Epstein.
Ils repèrent, identifient et surveillent les journalistes qui dérangent les pouvoirs en place. Ils les réduisent au silence en les censurant, écrit Reporters sans frontières. Ils se sont les services mis en place par des pays pour contrôler au plus près l'information. RSF dénonce 20 gouvernements ou entreprises spécialisées privées, en tête desquelles le cabinet de haine du président brésilien Bolsonaro, la Commission nationale des télécommunications vénézuélienne, le Conseil suprême du cyberespace iranien ou encore le ministère indien des Affaires étrangères. Il y a un an, un hindouiste radical, soupçonné d'être impliqué dans l'intimidation de témoins des pogroms anti-musulmans de 2002, mis en examen pour être le commanditaire de meurtres de mafieux, mais sans être jamais condamné, Hamid Shah devenait ministre de l'Intérieur. À ce poste stratégique, il règne sur la police et les services de renseignement. Harcèlement, censure d'État, désinformation ou espionnage et surveillance, ces pratiques plus le mensonge n'effraient pas Jair Bolsonaro. Le président brésilien, climato-sceptique, critico-susceptible, n'hésite pas à falsifier la réalité, comme par exemple, l'an dernier, Jair Bolsonaro a limogé le directeur de l'agence spatiale brésilienne, à qui il reprochait, je cite, des publications de données mensongères au service des ONG en vue d'exagérer l'étendue de la déforestation de l'Amazonie.
Un regard vers le ciel ce vendredi en France métropolitaine. Seules quelques gouttes vont tomber sur le nord-ouest au fil de la journée. Ailleurs, les éclaircies seront belles dans l'ensemble. Ce matin, comptez 8 degrés à Nantes, 9 à Lille et Paris, 10 à Lyon et 14 à Marseille.